Réagissez et retrouvez toutes les infos, toutes les émissions sur le Facebook de Radio VL, ainsi que sur Twitter.
Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Time is running out.
Too hard to give, too hard to live. I can't stop dreaming. Do you know what I mean?
Bonjour à tous et bienvenue pour ce 33e numéro de Réveil Média sur Radio VL. Nous sommes contents de vous retrouver dans votre émission préférée sur l'actu des médias. Chaque semaine, on se réveille à vos côtés dans la joie et la bonne humeur en vous informant de tout ce qu'il ne fallait pas louper. Et je vais de suite me tourner vers vos chroniqueurs spécialistes des médias qui m'accompagnent. Salut Vincent.
Salut Nico.
Comment ça va?
Ça va et toi?
Bien réveillé?
Très bien réveillé.
T'as la pêche. Hein.
Ah, j'ai la pêche.
Les piles alcalines sont en marche.
Ah, complètement.
T'es un peu aigu ce matin.
Avec toi Vincent, on va parler télé hein,
on va parler
chaque
télé.
Semaine. Cette semaine on parlera de Canal+, qui porte plainte contre TF1 pour abus de position dominante.
Tout à fait.
On parlera également du baromètre qualitatif des magazines TV, Pékin Express qui fait revenir les anciens candidats pour sa 10e saison.
Exactement,
ça passe vite. Et ton fameux chiffre de la semaine,
voilà.
Cette semaine c'est 500 000.
Voilà, mais 500 000 quoi?
On verra.
Voilà.
C'est le principe.
C'est ça.
Hello Florine.
Salut Nico.
Ça va?
Ça va et
toi? Voilà, ouais. Tout le monde a la flèche. Moi, ça me fait plaisir quand tout le monde a la flèche. Alors, avec toi Florine, on parlera radio et presse. Cette semaine, Europe 1 qui lance un appel au président américain. C'est très drôle, effectivement.
Oui, voilà, c'est une info, c'est rigolote.
Ah, ouais, exactement. La grève au quotidien, Le Parisien, le groupe Prisma qui n'achète pas de magazine Lagardère.
Voilà.
Tout ça, ce sera donc au programme avec Florine. Hello Marion.
Salut Nico.
Ça va?
Ça va et toi?
Eh oui, ça va, super. Alors Marion, qu'on vous présente cette semaine, qui remplace Sophie,
et
qui
oui.
N'est pas là. Et avec toi, donc, on parlera web. Bienvenue Marion, en tout cas.
Merci.
Cette semaine, avec toi, on parlera des mots de passe les plus utilisés en 2013 sur Internet. Amazon qui fait de la concurrence à Netflix. C'est comme ça qu'on dit, hein?
Netflix.
Exactement. Un clou pour les robots. On verra c'est quoi ce thème. C'est justement, on met un thème
oui,
un peu au hasard, justement pour intriguer
voilà.
Un peu les auditeurs. Hello Caroline.
Salut.
Ça va?
Oui. Merci.
Un peu plus de pêche.
Ça va, bah, ça va très bien.
Je crois que
non, attends,
elle vous a donné toute son énergie.
C'est ça. La semaine dernière, j'avais mal au ventre, je tiens à vous rassurer, ça va bien mieux.
Ah bah, avec toi, Caroline, on va faire le bilan média de la
oui.
Semaine. Cette semaine, la bonne nouvelle de la semaine, c'est donc M6 qui va lancer un concours de couture. Hein.
T'es content, tu vas pouvoir te présenter.
Oh bah merci. Et le guide, ton guide survie sur l'infidélité, comment ne pas se faire choper.
C'est ça.
Et oui. Et cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Bernard Lecomte, journaliste et écrivain. Bonjour.
Bonjour les jeunes.
Ah ouais. Ça va, tout va bien?
Magnifique.
Ah, en plus, il pleut ce matin.
Eh oui, il pleut.
Ah, voilà.
C'est terrible.
Et voilà, on est un peu mouillé.
Exactement.
Et ben, on va passer alors à la première séquence de cette émission, c'est l'interview.
Réveil Média, l'interview.
Et dans cette interview, on a une petite habitude, Bernard Lecomte, on reparcourt la biographie de notre invité. Vous êtes d'accord?
Bah, ça va prendre du temps. Hein.
j'ai essayé de trier. C'est vrai que vous avez une très longue et belle carrière. Vous êtes journaliste, écrivain, éditeur et blogueur. Après avoir été diplômé de langue et de Sciences Po, votre carrière journalistique prend forme. Parlant le russe et le polonais, vous êtes spécialisé sur l'URSS et l'Europe de l'Est. Vous allez notamment collaborer pour différents projets comme l'ouvrage « Cet étrange poste communiste » ou encore en tant que pigiste ou consultant pour RFI, RTL, RMC ou encore LCI. Et vous publiez dans de nombreux magazines de fond. Vos toutes premières piches se feront en 1966 au journal Tintin. Ah ouais, ça c'est marrant. 10 ans
ça,
plus
vous
tard.
Ça bouche un coin.
Ouais, 10 ans plus tard.
Un vieux machin comme moi a commencé le journal Tintin en faisant des piges à l'âge de 15 ans, ça vous embouche un coin.
Exactement, en tout cas, 10 ans plus tard, vous entrez à la Croix comme rédacteur de politique étrangère et fondez la revue Média Pouvoir. Puis vous vous tournez vers le reportage pour l'hebdomadaire L'Express, puis comme rédacteur en chef du Figaro Magazine. Vous avez publié de nombreux livres comme L'après-communiste ou encore le Bunker qui enquête sur les coulisses des relations France-URSS. Et après l'élection du pape Jean-Paul II en 1978, vous devenez spécialiste du Vatican. Votre biographie de Jean-Paul II, hein, Gallimard en 2003, a été vendue quand même à plus de 50 000 exemplaires. Hein. Vous recevez en 2004 le prix des libraires religieux ou encore le chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Et bah oui, monsieur le comte, vous avez également publié une petite biographie de Benoît XVI et accompagné le célèbre cardinal Roger Etchegaray Garrel, je suis du Pays Basque aussi, je vois très très bien qui c'est, dans la rédaction de ses mémoires. Ça s'appelle « J'ai senti battre le cœur du monde ». À partir de 2005, vous devenez consultant pour les affaires religieuses, d'abord sur RTL, puis sur BFM TV. Dernièrement, vous avez publié « Les secrets du Vatican » et « Histoire des papes de 1789 à nos jours ». Aujourd'hui, on vous retrouve avec « La Bourgogne pour les nuls » aux éditions First. Hein, et le choix de la Bourgogne, d'ailleurs, n'est pas un hasard, car vous vivez de votre plein temps, votre plein temps est désormais pour l'écriture dans cette région, mais pas que. Vous êtes conseiller municipal du village de Saint-Denis-sur-Ouanne, présidez le club des écrivains de Bourgogne et animez les éditions de Bourgogne. J'ai pas fait d'erreur ?
C'est à peu près ça. Ça me fait peur, ça. J'ai l'impression d'être mort.
Mais quelle carrière, justement. Et on a une autre habitude, c'est on va écouter une audio clin d'œil pour notre invité, Bernard Lecomte. Et vous êtes à ce moment-là l'invité des grosses têtes de Philippe Bouvard sur Internet, sur un discours sérieux. Ben Jean-Jacques Perroni est toujours là pour lancer un petit trait d'humour. Écoutez.
Alors, il y a, sous la confession de Saint-Pierre, donc vous savez, c'est au milieu de la basilique Saint-Pierre, il y a en effet quelque chose qui s'appelle le tombeau de Saint-Pierre. Et moi, j'ai toujours été intrigué par ça. Je me suis toujours demandé, est-ce que c'est le vrai tombeau ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est le vrai Saint-Pierre ? Est-ce que dans ce tombeau, il y a des ossements ou des reliques qui sont bien celles du premier évêque de Rome ?
Mais ce serait peut-être pas celle de Miquelon.
De Miquelon ? Oui.
Oui, Saint-Pierre et Miquelon.
Hier, j'ai vu que Bernard Lecomte était invité des grosses têtes. Je me suis dit, à mon avis. Alors, Bernard Lecomte, comment est née votre passion pour le Vatican ? Parce que vous êtes le papologue français. Hein.
Vous voyez, ça fait partie de ces hasards de la vie, surtout de la vie de journaliste, qui sont rigoureusement imprévisibles. Moi, j'étais donc, vous l'avez compris, journaliste de politique étrangère. J'étais grand reporter à l'Express et je m'occupais des pays de l'Est. Je m'occupais de Gorbatchev, de Walesa, de Solzhenitsyn et de Sakharov. Et en 1979, comme vous le savez, il y a eu un voyage incroyable. C'était le voyage du premier pape polonais rentrait chez lui, qui revenait sur sa terre natale, Jean-Paul II. On était 800 journalistes, probablement, même plus. Mais là où j'étais, en tout cas, de journalistes occidentaux, on devait être 700 ou 800. Et tous ceux-là ont vécu la même chose que moi, c'est-à-dire un événement de fou, un événement incroyable.
Il faisait quand même lever les foules, Jean-Paul II. C'est incroyable, c'est sur son passage, un charisme exceptionnel.
Même si vous êtes trop jeune pour avoir connu cette époque, on est à l'époque où le mur de Berlin se tient bien debout, où les pays communistes sont des vrais pays communistes, où il n'est pas question, par exemple, d'éditer une carte de visite sans passer par la censure officielle. Et voilà qu'un type en blanc, qui parle polonais puisqu'il est polonais, qui est pape, donc qui représente une communauté à l'époque de 800 millions de personnes. Il arrive et il commence à parler dans la langue des gens, sans évidemment être passé par la censure, de tout, de l'homme, de la dignité de l'homme, des droits de l'homme, de la responsabilité de l'homme, etc. En terre communiste à l'époque, c'était inouï. Tous les journalistes qui étaient là, qu'ils fussent chrétiens ou pas, papistes ou pas, qu'ils se soient passionnés pour la Pologne ou pas, tous ont dit, on est en train
de voir quelque chose.
Et ce quelque chose a duré une semaine, car pendant une semaine, cet homme-là a vu 300 000 jeunes, 1 million de pèlerins, 1 million 200 000, etc. Pendant une semaine. C'était fou. Vous savez, on a vu de nos yeux la lézarde dans le mur le mur de la honte. On l'a vu grandir, là, en 8 jours. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai continué à m'intéresser, moi, à cet homme-là, en me disant, il est en train de faire bouger les lignes. C'est évident que ce pape polonais, il a vraiment une importance historique. Et comme j'étais toujours fourré dans ces pays-là, puisque c'était mon métier, à chaque fois que je rencontrais des dissidents ou des dirigeants, je leur disais, mais, et le pape, comment vous voyez les choses, et les évêques, la religion, etc., etc. Et c'est comme ça que, petit à petit, je suis devenu un observateur de ça. J'ai fait un premier bouquin sur, très exactement, le rôle du pape dans la chute du communisme, donc que j'ai fait après la chute du mur. Et c'est en lisant ce bouquin que les autres éditeurs se sont dit, tiens, mais il y a un gars là qui a l'air de bien connaître son truc. C'est là que Gallimard m'a proposé de faire la grande biographie de Jean-Paul II. Et c'est comme ça que je suis devenu papologue.
Et d'ailleurs, Bernard Lecomte, vous avez dernièrement publié Les secrets du Vatican. C'est le livre qui m'a le plus intrigué. Comment s'est organisée votre enquête quand même ? Il y a quand même des choses que le public ne connaissait pas. C'est vraiment une enquête sur le terrain. Comment s'organiser ces ces enquêtes auprès du Vatican, parce que c'est un lieu plutôt secret habituellement.
Alors, oui,
et le, toujours d'ailleurs.
C'est le point de départ, c'est un point de départ journalistique, c'est-à-dire exclusivement la curiosité du bonhomme. Vous savez, le journaliste, c'est ça. On est curieux ou on l'est pas. Si on n'est pas curieux, faut pas faire ce métier, c'est simple. Moi, quand j'arrive, bah, c'est ce que je racontais aux grosses têtes là quand vous l'avez passé. Oui. Quand j'arrive à Rome, moi, je me pose toutes les questions que tout le monde se pose. C'est pas parce que je suis journaliste ou que j'ai un certain âge ou que j'ai... Bon, voilà. J'arrive, on me dit, ça, c'est le tombeau de Saint-Pierre. Je dis, est-ce que c'est le vrai tombeau? Est-ce que c'est le vrai Saint-Pierre, tout simplement?
Parce que c'est beaucoup d'enquêtes sur le terrain, aussi sur des archives. Est-ce qu'on vous a ouvert à des archives, peut-être aussi
pour... Oui, sachant que je me suis limité aux, disons, aux deux derniers siècles. Parce qu'il y a plein de questions.
Mal,
oui, mais je vais vous dire pourquoi. C'est simplement que vous avez eu la gentillesse tout à l'heure de dire j'ai fait les langues zoos, j'ai quelques langues. Je parle le russe, le polonais, j'ai fait de l'allemand, etc.
Donc, parfois pour lire
ça,
des textes.
Ah bah c'est même capital.
C'est capital.
Et donc, quand il s'agit de faire la biographie de Joseph Ratzinger ou celle de Karol Wojtyła en Pologne, je sais faire. Quand il s'agit de remonter dans les grandes histoires de l'Europe du XXe siècle, je sais faire. Mais quand il s'agit de remonter au Borgia, au pape d'Avignon, je ne sais plus faire. Je ne suis pas formé. Là, c'est plus du journalisme, c'est de l'histoire.
Là, c'est
historien. Je ne suis pas historien.
Mais...
Historien, c'est une méthodologie. Ça s'appelle
justement, vous avez appris aussi
les archives. Non, je ne sais pas faire.
Vous savez pas faire.
C'est pour ça que le Moyen-Âge, vous ne me verrez jamais écrire sur le Moyen-Âge. Parce que tout simplement, je ne sais pas faire. Dites-moi, allez fouiller dans une région pourrie de Bulgarie, quelque part, pour savoir si on ne va pas retrouver un des assassins du pape d'il y a 30 ans. Ça, je sais faire. Je sais aller à Sofia, je sais comment on va à Sofia de cet endroit. Je sais à peu près parler de bulgare, parce que le bulgare, c'est du russe, grosso modo.
Enfin,
j'espère qu'il n'y a pas trop de qui nous écoutent, parce qu'ils ne vont pas être contents du tout. Mais c'est vrai que le bulgare...
Ils nous excuseront.
C'est quand même très, très proche
du russe.
Il y a
beaucoup d'Arméniens, surtout.
Et puis là, je saurais aller voir le maire du village pour savoir s'il connaît un mec qui a participé au truc, si la gendarmerie avait repéré. Tout ça, je sais faire. Mais en revanche, plonger dans les archives du Moyen-Âge ou de la Renaissance, ça, je ne sais pas faire.
Alors, dernièrement, vous avez publié La Bourgogne pour les nuls aux éditions First. Alors, ce livre relate l'histoire de cette région, des dinosaures à nos jours, et permet de retrouver au fil des pages celles et ceux qui ont marqué l'histoire. Alors, la question que je me suis posée, c'est, à l'école, on apprend l'histoire de France en général. Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir plus de place à l'histoire des régions à l'école ?
Alors, je vais vous dire, il devrait déjà y avoir plus de place à l'histoire tout court.
Tout court, bon,
c'est vrai, ça.
À l'histoire de France ou à l'histoire de l'Europe, à l'histoire du monde aussi, bien sûr. Mais l'histoire du monde, déjà, on délaye. C'est déjà, il faut déjà avoir travaillé un peu, c'est pour les classes terminales, ça. Mais moi, je regrette beaucoup la marginalisation progressive de l'histoire et de l'histoire de France dans les petites classes. Parce que moi-même, je n'étais pas du tout très porté vers l'histoire.
Ouais.
J'ai découvert l'histoire en faisant du journalisme, moi. C'est quand j'étais dans les pays où je me disais, mais on ne peut pas comprendre un pays sans savoir
l'histoire. Exactement.
Allez, enfin, c'est impossible. Comment peut-on surfer comme ça sur le contemporain en se disant, tiens, je vais comprendre ce qui se passe? Pas du tout, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Regardez, aujourd'hui, la rencontre Hollande avec le pape François. Mais si vous ne connaissez pas un peu d'histoire de France et un peu d'histoire de l'Église, vous faites comment pour comprendre la rencontre de ces deux-là? Bon. Donc, je suis pour. Et puis alors, l'histoire des régions, elle devrait...
Qu'est-ce qui vous a amené justement à écrire, bon, vous habitez en Bourgogne, mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire déjà pour les nuls, hein? Les nuls, ils ont plusieurs collections, etc. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce bouquin?
Alors, c'est une collection qui a...
Qui est autre chose que la
papoté. Qui est une collection très, très à succès, très populaire.
Elle marche très, très bien.
Qui marche très, très bien. C'est un concept américain et c'est un protocole américain. Vous savez ce que c'est qu'un protocole? C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, vous allez écrire ce livre, mais alors voilà le cahier des charges.
C'est ça.
Cahier des charges, il y a 10 pages. Et il faut que ceci 8 lignes, là, tant de
que
corps
ça corresponde
pour,
exactement.
C'est
là,
extrêmement précis, c'est très rigoureux.
C'est extrêmement précis. Ça veut dire que vous ne pouvez pas confier un bouquin comme ça à un universitaire. Il ne saura pas faire. Le plus grand spécialiste de la Bourgogne ne saura pas faire. Alors ici, c'est 60 lignes comme ça, puis là, c'est un sous-titre avec une introduction. Et puis là,
il faut avoir été habitué à écrire.
À écrire dans les journaux.
Exactement. Et c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher, parce que bon, il y avait sûrement d'autres journalistes, mais enfin bon, ils sont venus me dire, vous apparemment vous connaissez tout ça.
Vous étiez très impliqué.
Et j'ai accepté en comprenant assez vite que c'était en effet un travail de journaliste. Un journaliste, on lui dit, voilà, ce soir tu vas écrire la vie de Saint-Bernard. Bon, Saint-Bernard qui est le grand homme de la Bourgogne au Moyen-Âge. Bon, la vie de Saint-Bernard en 3 pages ou en 12 lignes?
Ah oui.
Bon, un journaliste, il sait faire.
Comme Nicolas Nadeau.
On lui dit... Voilà, c'est vrai. Je suis pas en train de gonfler les filles là, mais je dis un journaliste, vous lui dites trois pages, il s'est fait trois feuillets, il fait trois feuillets. 12 lignes, il fait 12 lignes. Un universitaire, jamais ne fera la vie de Saint-Bernard en 12 lignes.
Et ben en tout cas, justement, on va devoir continuer. On va passer de suite à la chronique télé avec Vincent. Mais quant à vous, Bernard Lecomte, vous restez avec nous tout au long de l'émission pour participer à nos rubriques.
Avec plaisir.
Alors avec toi, Vincent, on va commencer avec Canal+, qui porte plainte contre TF1 pour abus de position dominante.
Eh oui, pendant des années, Canal+ et TF1 se sont livrés une guerre sans merci avec leur bouquet de chaînes payantes qui étaient CanalSat et TPS. Mais depuis la fusion des deux offres et après le rachat de TPS par Canal+, en décembre 2005, les tensions avaient disparu. Malheureusement, celles-ci se sont ravivées avec l'arrivée de la chaîne cryptée dans la télévision gratuite. On s'en souvient, c'était au moment du rachat par Canal+ de D8 et D17. Alors que s'est-il passé exactement ? TF1 et M6 ont déposé un recours en annulation de l'achat donc de Canal+ des deux chaînes de la TNT, et le Conseil d'État, devant lequel le recours a été déposé, a bel et bien annulé l'autorisation donnée en 2012 à l'époque par l'autorité de la concurrence. Voilà. Alors, qu'a fait Canal+ ? Eh bien, la chaîne cryptée a déposé une plainte, cette fois-ci contre la Une, devant l'autorité de la concurrence, en demandant de vérifier si TF1 n'abuse pas de son éventuelle position dominante sur le marché de la publicité. En effet, si on cumule toutes les chaînes du groupe, dont TMC, NT1 et bien d'autres encore, la Une récolte un peu moins de la moitié des recettes dépensées par les annonceurs sur l'ensemble des chaînes de télévision, ce qui est énorme.
Ah oui.
Et ça signifie, que la part des revenus que capte TF1 sur le marché télévisé n'est absolument pas proportionnelle à son audience. Alors Canal+ veut vérifier si la Une ne profite pas un petit peu de cette situation, c'est bien normal, pour imposer sa loi et ses prix, et au marché publicitaire, tout en essayant également de protéger iTélé, car oui, comme on le sait, le futur passage en gratuit de LCI pourrait légèrement empiéter sur l'audience donc d'iTélé, et ça ne plaît pas tout à fait à Canal+.
Et on continue, Vincent, avec le baromètre qualitatif des magazines TV.
Voilà, tout à fait, un peu plus légèrement. Comme l'année dernière, l'Institut de sondage Harris Interactive dévoile le fameux baromètre de télévision. Voilà, tout à fait. Et il révèle les 10 meilleurs magazines TV, jeux et divertissements, et aussi les 10 meilleures audiences de séries TV de l'année 2013. Alors, du côté des magazines, c'est France Télévisions qui arrive en tête. Le groupe est plébiscité puisque... il est présent dans 10 des meilleurs programmes choisis par les personnes interrogées. C'est d'ailleurs le programme Déraciner des ailes, diffusé sur France 3, qui arrive en tête. En revanche, côté divertissement, le top 10 est un peu plus mitigé. On va dire que France TV récolte 4 places, TF1 4 places également, et M6 1 place. Alors le meilleur divertissement de l'année, selon le baromètre, ce fut l'émission Les 12 coups de midi sur TF1. Émission assez populaire,
assez populaire, très bien regardée, très bonne audience.
Ouais, tout à fait. Elle fut diffusée en prime time l'été dernier, ça s'appelait Les 12 coups du soleil. Voilà. Et alors, du côté des séries américaines, j'ai bien envie de vous faire deviner le top 5, comme vous connaissez un petit peu les séries. Alors, à votre avis, qui arrive à la 5ème place du classement ? Petit indice, c'est une série de TF1 autour d'un acteur principal, une série médicale.
Ah bah,
c'est Doctor House.
Doctor House.
Doctor House, affirmatif. À la 4ème place, c'est une série diffusée sur France 2, une série policière. Avec un auteur de roman, Castle, tout à fait.
Bravo.
Absolument. À la troisième place, c'est une série qui est diffusée aux États-Unis, policière également.
Mentaliste.
Encore une autre. Non, c'est FBI, Dieu très spécial. Eh oui. À la deuxième place, c'est une série d'M6. Bon, celle-là, je vous la donne parce qu'elle est un peu pas facile. C'est Once Upon a Time.
Ah oui.
Même moi, je ne l'aurais pas trouvé.
Ah bah non.
Voilà. Et first place, c'est The Série de TF1. Encore une fois, milieu médical. Un médecin beau gosse, Grey's Anatomy.
Marion, elle est au taquet.
Elle est au taquet.
Médecin beau gosse, attends.
Voilà. Donc voilà pour nos classements.
On continue, Vincent, avec Pékin Express qui fait revenir les anciens candidats pour sa 10ème saison.
Absolument. Pékin Express, c'est reparti. C'était en début de semaine. Et si M6 a débuté le tournage, cette fois en Birmanie, de la 10ème édition du jeu d'aventure, produit toujours par Studio 89. Alors que l'on s'en souvient, rien n'était sûr à cause d'une 9ème saison aux audiences décevantes, mais on va tout de même écouter tout de suite un petit morceau de la finale de l'année dernière avec les gagnants Ludovic et Samuel. On l'écoute.
Mais c'est dingue ! Mais c'est dingue ! Mais j'y crois pas ! J'y crois pas !
Vous êtes vraiment très fort. Vous êtes vraiment
très fort. On est les meilleurs, Stéphane ! On est les meilleurs !
Vous êtes très très fort.
Voilà, je crois que tout est dit.
Ils étaient contents.
Hein. Ils étaient très 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 contents, ouais. Donc le parcours est désormais connu cette année. Les équipes partiront de Birmanie pour arriver au Sri Lanka, en passant par l'État indien de Nagaland et le royaume du Bhoutan. Ce sera donc un sacré périple en Asie.
On termine, Vincent, avec le fameux chiffre de la semaine. Cette semaine, c'est 500 000. Alors,
voilà.
Qu'est-ce que c'est ?
Eh ben, tout à fait, nous y sommes. 500 000, c'est le nombre de téléspectateurs qu'a perdu ce cher Laurent Ruquier sur la deuxième de l'émission Pour tous. Il tombe donc en dessous de la barre des 10% de parts de marché qu'il avait pourtant atteint et même dépassé avec la première lundi soir. Il va donc falloir se remuer pour conserver son public.
Eh ben merci Vincent, il est 8h19. Vous êtes toujours à l'écoute de Réveil Média sur Radio Vel. On va s'écouter tout de suite Colonel Rayel, celui...
La communauté des 1535. 1535, c'est Radio VL.
Aussitôt que le jour se lève, tu es dans ma tête. Tu hantes mes pensées, je n'en sortirai pas inerte. Car tu as ton copain et tu tiens à lui, c'est net. Mais girl, écoute ça. Te dire que je ne veux pas te détourner serait malhonnête. Tellement tu contrôles mes réactions, telle une marionnette. Pourquoi cela dont-il ainsi? Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Au pire, celui qui partage ta nuit. Passer quelques heures avec toi dans ce lit. Je saurai prendre soin de toi. Laisse-moi ma chance, tu verras. Mais t'imagines même pas ce que je ressens pour toi. Un truc de dingue, je peux même pas mettre de mots sur ça. J'aurais jamais pensé qu'un jour j'en arriverais là. Non, le style fleur bleue, c'est vraiment pas moi. Mais je peux rien y faire, il faut que je l'exprime. Un amour sincère dans un monde où le sexe prime. Donc je cesse filmer, t'exprime mon estime. Girl, tu seras ma Sylvia et moi ton maître. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Au pire, celui qui partage ta nuit. Passer quelques heures avec toi dans ce lit. Je saurai prendre soin de toi. Laisse-moi ma chance, tu verras. Devant ton charme exotique, je fonds comme Kim. Sensuellement ultime, limite coquine, copine. Profiter de la vie, c'est la doctrine. Docteur, à mes heures perdues selon le timing. Doc réel, pas gynéco. Tes problèmes de gal, ouais, je n'écho. J'ai étudié la chose à mon école. Celle des Guadeloupéens de la grande époque. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Au pire, celui qui partage ta nuit. Passer quelques heures avec toi dans ce lit. Je saurai prendre soin de toi. Laisse-moi ma chance, tu verras.
Je veux être celui qui t'accompagne. Que tu sois ma compagne. Qu'on se fasse des purs voyages. T'inquiète, ce sera pas la campagne. À base d'on est en pagne. On pète le champagne. Ami, ami, le Brésil, le Maroc ou l'Espagne. Le reste, l'épargne. Ouais, je te l'épargne. Deux, trois bisous, un câlin sous la couette et pam. Faut que je redescende sur terre. Je n'ai même pas encore ton tel. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui qui brave tes interdits. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Au pire, celui qui partage ta nuit. Passer quelques heures avec toi me suffit. Je saurai prendre soin de toi. Laisse-moi ma chance, tu verras. Tu verras, tu verras. Je serai celui-là. Oh non, je te le dis, je te le dis. Je serai celui-ci. Tu verras, my girl. Et tu verras, my girl. Non, je te le dis, je te le dis. Je serai celui.
Il est 8h23, vous êtes toujours à l'écoute de Réveil Média sur Radio VL. On est avec Caroline, Marion, Vincent, Florine et notre invité de la semaine, Bernard Lecomte.
Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe.
Et on va passer de suite à la séquence que vous connaissez tous, avec Bernard Lecomte cette semaine en invité, c'est le je m'en fous pas.
Réveil Média, le je m'en fous pas.
Et le concept est simple du je m'en fous pas. Parmi les thèmes que je vais vous citer, nous allons faire un tour de table et vous allez me dire je m'en fous ou je m'en fous pas et expliquer pourquoi. Et on commence avec le premier thème de la semaine. C'est la première semaine de l'émission pour tous sur France 2. Il y a quelques semaines, justement, on en avait débattu dans cette émission sur le retour de Laurent Ruquier dans l'Access Prime Time de la chaîne publique. Et ce soir s'achève la première semaine de ce tout nouveau programme. Au lendemain, je vais vous citer quelques titres de journaux au lendemain de la première diffusion. Pour Le Monde, Laurent Ruquier et sa productrice Catherine Barma ont fait le travail sans grande prise de risque, une émission pour tous populaire et blagueuse. Pour Le Parisien, l'émission fonctionne, même si certains points de vue sont peu argumentés et estiment que les choses ont changé sur France 2 sans air de déjà vu. Pour 20 minutes, l'émission tient la route, mais propos plus durs pour TV Mag, estimant que l'émission provoque le débat et l'ennui. Alors, je m'en fous ou je m'en fous pas, Bernard Lecomte. De cette émission, de cette première semaine, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Moi, je serais tenté de dire je m'en fous, parce que au fond, que Laurent Ruquier et Catherine Barma fassent une émission de télévision avec une bande d'humoristes, d'acteurs, de copains, à décliner l'actualité en rigolant au maximum, ça fait quand même 20 ans que ça n'a pas changé.
C'est un peu pompé sur Radio
Réel. Exactement.
D'abord.
Donc normalement, ça devrait vraiment m'indifférer. Mais ce qui est intéressant, c'est cette extraordinaire bataille pour l'Access Prime Time en ce moment pour voir. On se déchaîne. C'est extraordinaire. Alors ce sauveur-là, je l'ai vu moi mardi. J'avais pas pu le regarder le premier jour. Je l'ai vu mardi et je suis tombé avec effarement dans un débat presque violent sur l'avortement. Et là, je me suis dit, Ruquier fait fausse route. Parce que faire du clivant, de la castagne sur des sujets pareils juste avant le dîner, c'est une erreur. C'est exactement pour ça que Sophie Avram, à mon avis, n'a pas progressé. Vous savez, il y a des millions et des millions de gens qui, juste avant le dîner, ne trouvent pas du tout que l'avortement, ce soit drôle. Rigolo.
Et toi, Vincent, tu t'en fous ou pas ?
Eh bien, je ne m'en fous pas, mais par contre, je suis assez d'accord avec Bernard Lecomte sur le fait que l'IVG...
Certains thèmes, peut-être, voilà, qui sont un peu avant le
exactement.
Souper.
Cependant, je suis plutôt pour les débats.
Et toi, Marion ?
Alors, moi non plus, je m'en fous pas. Mais par contre, il y a un débat que j'ai trouvé, c'était sur le racisme des roues. Alors, je me suis dit,
Moi, j'ai un neveu qui est roux et je suis désolée, je pense qu'il faut en parler.
Et toi, Florine ?
Non, je m'en fous pas. Je trouve le concept de faire participer le public, tout ça, assez sympa. Mais après, c'est vrai que j'ai regardé une émission et j'ai trouvé ça assez répétitif. On se laisse vite.
On va passer au deuxième thème.
On s'en fout si je m'en fous pas, en résumé. Non, mais de toute façon, j'ai pas regardé.
Tu viens de répondre. On passe au deuxième thème de la semaine. Cette semaine, c'est la sortie du livre de Nolo et Zemmour annulé en dernière minute. Alors évidemment, je pense qu'on s'en fout autour de cette table. Mais c'est intéressant justement de voir un peu cette actu. C'était hier, les deux acolytes devaient sortir Les Français écrivent à Nolo et Zemmour aux éditions Jean-Claude Goldswitch. Selon le site de TéléOps, la sortie de cet ouvrage est finalement annulée et c'est la société qui produit les deux animateurs sur Paris Première, Troisième Œil, qui aurait pris cette décision, estimant que le contenu n'était pas vraiment à la hauteur. Alors justement, dans ce contenu, qu'est-ce qui y figurait ? Une compilation des meilleures missives reçues chaque semaine de la part des téléspectateurs de leur émission sur Paris Première. C'était un mélange de conseils vestimentaires, de débats idéologiques, d'insultes et de déclarations d'amour. Alors justement, ça change un petit peu de ce que font habituellement Bernard Lecomte.
Alors moi, j'ai l'habitude de juger un livre quand je l'ai lu. Donc ce livre-là, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Nolo Zemmour, c'est un duo qui m'intéresse parce que c'est un des rares duos qui est assez audacieux, assez gonflé, deux types qui sont pas du tout du même avis, mais qui au fond parlent le même langage. Moi, j'étais très scandalisé lorsque le Nouvel Obs a assimilé Éric Zemmour à deux fachos obscurs et maladifs l'autre jour. Je trouve que Zemmour a une place à lui, dans le paysage médiatique, et il en faut des comme ça. Il n'est pas antisémite, il n'est pas fasciste, il est simplement, voilà, il donne son avis, et son avis choque beaucoup de gens. Très bien. Et ben, si vous n'êtes pas choqué par les gens, interrogez-vous quand même.
Ouais, c'est vrai. Caroline, tu t'en fous ou pas de cette info ?
Oui, un bouquin écrit avec des lettres de téléspectateurs. Ouais. C'est un bouquin qui ne prend pas tout le temps à écrire.
Est-ce que justement la société de production a eu raison justement d'annuler ce bouquin qui pouvait ne pas représenter le travail des deux journalistes ?
Moi, j'aurais pas lu de toute façon.
Marion.
Ouais, alors moi aussi je trouve que je m'en fous parce qu'après tout, voilà, comme Bernard Lecomte le disait, c'est des personnes qui ont des fortes personnalités et ils sont peut-être capables d'écrire mieux que des lettres de téléspectateurs.
Ouais. Florine.
Moi je suis assez d'accord avec Marion, je m'en fous aussi.
SM trop.
Vincent. Trop
de love. Non, moi je m'en fous pas, je trouve que c'est un peu de la censure, ça m'embête un peu quand même.
C'est des lettres de téléspectateurs. Ouais.
Mais même, c'est pas grave.
C'est peut-être de la censure utile pour nous, hein, tu
alors,
sais pas.
Maintenant, moi, je l'ai pas vu, donc je peux pas le juger, mais excusez-moi, j'ai écrit dans ma vie un certain nombre de bouquins, je suis quand même un peu surpris de la manière, parce que normalement, pour faire un livre, il y a un éditeur qui relit le bouquin, qui voit chapitre par chapitre, si ça lui plaît pas, il va voir les auteurs en disant, il faut écrire un peu plus ceci, un peu plus cela, ça, je suis déçu, donc ça m'étonne que ça soit à la toute dernière seconde, d'un seul coup, qu'il se passe un truc pareil, ça c'est quand même
surprenant. C'est pas pour faire du buzz et le ressortir dans trois semaines.
Oui. Et ben de suite, on va passer à l'actu radio et presse. Et oui, c'est à toi. C'est pour ça que je l'ai dit tout doucement parce que je voyais que Florine était concentrée sur papier. Là, l'actu radio et presse. Et avec toi, Florine, on commence avec Europe 1 qui lance un appel au président américain.
Et oui, Nicolas, Europe 1 s'est offert une petite pub dans le célèbre Washington Post. Alors la radio espère interpeller Obama, le message de cette pub. Cher président, vous avez déjà essayé les French fries, pourquoi n'essayeriez-vous pas une interview avec la radio française ? Alors pourquoi pas, c'est rigolo et original comme demande. L'encart publicitaire est bleu et occupe quand même un quart de page, autant vous dire que dans un journal tout en noir et blanc, ça flash un peu. Le message est accompagné d'un joli portrait d'Obama qui trône au-dessus du logo de la radio. Le texte joue un peu, beaucoup même, sur les clichés français. On peut lire « On sait que vous avez déjà essayé la boxe française, les frites et le French kiss ». Bon, avec ça, je pense qu'il a fait le tour de tout ce qui est intéressant en France. Est-ce vraiment nécessaire de venir pour faire la bise à El Kabash ? Je sais pas. La pub n'a rien coûté à la radio, en plus, puisqu'ils ont fait un échange d'espace publicitaire avec le Washington Post. Bon, chez Europe 1, ils sont quand même un peu plus sérieux. Ils ont donc envoyé en parallèle une demande d'interview écrite adressée à la Maison Blanche et à l'ambassade des États-Unis en France. Alors j'ai lu ce matin que Obama avait vu la pub et il a pas dit non.
Il a pas dit non, ils l'ont mis sur leur Facebook Europe 1.
Alors si jamais Barack, tu viens en France, viens faire un tour dans Réveil Média, tu y seras bien reçu, on a plein de bonbons et même de l'eau.
On continue Florine avec la grève au quotidien, Le Parisien.
Eh ben oui, vous avez pas pu profiter mercredi du Parisien. En effet, les abonnés ont pu trouver un message sur le site du journal disant « En raison d'un mouvement social d'une partie de la rédaction, votre journal n'est pas disponible ce jour. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. » Moi, je pense que c'est la RATP qui leur a donné un cours d'excuse moisi tellement ça y ressemble.
<C'est clair.
rire> Bref, alors, la rédaction... La rédaction du Parisien s'est donc mise en grève pour protester contre le projet de la rédaction de réduire le remboursement des frais kilométriques et plus globalement des frais de reportage. La grève a été votée à 135 voix contre 48 et 8 votes blancs. La rédaction du Parisien compte 320 journalistes et ne s'était pas mis en grève depuis un an et demi. Bien joué, bel effort les gars. Si le projet de la direction est mis en place, les reporters perdraient entre 400 et 1500 euros par an quand même.
Ah oui, on termine Florine avec le groupe Prisma qui n'achète pas de magazine Lagardère.
Et non, Prisma Média, numéro 2 de la presse magazine en France avec 35 titres, n'est pas intéressé par l'un des 10 magazines mis en vente par Lagardère. Le président du groupe, Rolf Heinz, explique qu'il a regardé le dossier mais qu'il ne va pas faire d'offre. Ils préfèrent se concentrer sur le développement très fort des marques du groupe. Ils veulent concentrer leur effort dans le numérique et compléter leur offre dans l'univers technologique et audiovisuel. Carmine Perma, patron de Mondadoro. Numéro 3 de la presse magazine en France a indiqué à l'AFP que non plus ne souhaite pas racheter de magazine à Lagardère. Prisma Media, filiale française du groupe Gruner Jahr. Ouais, mon accent allemand est aussi bon que mon accent anglais.
On a un point commun.
Voilà.
Mondadori, c'était l'italien.
Bon, bah alors je suis très mauvaise en accent. Bref, ils viennent de prendre le contrôle leader en France de la régie vidéo sur Internet. C'est la plus grosse acquisition de son histoire. Le numérique pour Prisma représente aujourd'hui 10% contre 1% il y a 4 ans. Au cours des deux dernières années, Prisma a investi des millions pour acquérir un agrégateur de blogs, une place de marché, un portail vidéo, une régie à la performance et entrer dans le capital d'une régie mobile. Côté papier, Prisma prépare 3 magazines innovants. Bref, Lagardère avec ses magazines n'intéresse personne. Cette affaire a comme un arrière-goût de « Non, mais c'est pas toi, c'est moi ».
C'est super, il est 8h33 sur Radio VL. Vous êtes à l'écoute de Réveil Média. J'espère que vous passez un agréable moment avec notre invité de la semaine, le journaliste écrivain Bernard Lecomte. Quant à nous, on revient tout de suite. On va s'écouter Team BF, Team BS, Casse Départ.
Radio VL
revient juste après ça.
Juste après ça. Retour à la case départ. Dans les rues des visages et pointé du doigt. Sans rancune, c'est retour à la case départ. Quelques mots sur un papier, beaucoup d'espoir. C'est un aller sans retour à la case départ. Un peu de elle, de lui, de nous, beaucoup de toi. Au cas où on se revoit à la case départ.
Retour à la case départ.
On a arrêté de traîner, juste en trouvant nos rôles. Au final, c'est les plus petits qu'on retrouve dans nos halls. Esclave de ma passion, je me dis que je serai jamais aboli. On nous respecte sur un coup de tête, demande à Basile Poli. T'as beau gagner des millions, tu vas mourir comme tout le monde. Autrement dit, même en lumière, tu vises pas plus loin qu'une ombre. Dites-moi combien d'enfants battus seront des parents violents. Combien de victimes de la route se disaient chaud au volant. Un peu partout, des guerres de religion, ce qui change c'est l'époque. Beaucoup de gens qui ont réussi diront ce qui change c'est l'époque. Les mêmes scénarios pour d'autres gens, donc faites place au suivant. On n'a pas les mêmes péchés, mais on aura les mêmes jugements.
Départ. Sur le terrain, les petits ont la coupe, mais pas le salaire à Neymar. Hey yo, Scal, coupe le son, ça je le veux a cappella. Libre penseur enfermé, demande à Nelson Mandela. Même si tout nous sépare, nombreux sur la ligne de départ. Et la guitare me rappelle que très tôt, je rentrais déjà très tard. F.A. Babe, Winnie Babe, Cindy et Sultan, ils sont après nous comme les chiens de la toile.
Je les ai entendus parler combien de fois. Au final, c'est retour à la case départ. Et je nous ai vus contourner combien de lois. Sans succès, retour à la case départ. Quelques mots sur un papier, beaucoup d'espoir. C'est un aller sans retour à la case départ. Un peu de elle, de lui, de nous, beaucoup de toi. Au cas où on se revoit à la case départ.
Sur ma route, j'ai vu tomber.
Même si ce monde s'est levé, ma carrière est remplie de vices que les chétans a meublé. Plus d'ennemis, plus de fans, plus de clap. Baby, ton son ne marche plus, t'as le buzz d'un cul de jatte. Poussé à l'arrêt de bus, regarde, j'fais peine à voir. Des rafales de larmes sont venues tuer ma joie. Tes punchlines étaient bien, mais ça paye pas les factures. Pas de télé, pas de radio, et ta carrière se fracture. La vie un court métrage où tu joues plus aucune scène. Je retourne à ma vie d'esclave, je passe plus sur aucune chaîne. J'ai perdu des êtres chers, les photos ont de la valeur. Mourir en pole position comme Walker.
Sur ma route j'ai vu tomber.
Vous êtes toujours à l'écoute de Réveil Média sur Radio VL. On est avec Caroline, Marion, Vincent, Florine et notre invité de la semaine, le journaliste écrivain Bernard Lecomte.
Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe.
Bernard Lecomte avec ce nouveau livre La Bourgogne pour les nuls aux éditions First. C'est bien ça ?
Parfaitement exact.
Eh bien alors on va passer de suite au Qui a dit ?
Réveil Média, le qui a dit.
Et je rappelle le concept du qui a dit, voici les règles. Je vais vous citer plusieurs phrases prononcées dans les médias et vous allez devoir en deviner les auteurs. C'est bien sûr des phrases reprises de multiples fois dans les médias, quoi qu'il y en a quelques-unes cette semaine, un peu moins. Mais vous allez très vite deviner. Vous êtes prêt, Bernard Lecomte ?
Je suis prêt.
Qui les a dit aussi. Si un président s'attend à ce que personne ne viole sa vie privée, c'est qu'il vit au pays de oui-oui.
Ah, Laurent Ruquier.
Non, c'est une femme. C'est oh merde, putain, elle est sur des.
C'est quoi, c'est une actrice, c'est une chanteuse.
Non, c'est bon, je l'ai trouvé. J'ai pas son nom, mais je sais. C'est la nana sur D8, le matin, avec Laurence Ferrari, la métisse qui était avec Montebourg.
Audrey Pulvar.
Non, c'est moi. Non, je suis désolée. Attends, je me mets.
Pas tous en même temps.
Je me mets deux points.
Non, pas tous en même temps, effectivement, faut citer le nom. Mais c'est vrai que t'as bien aidé les autres.
Merci.
Et oui, c'était Audrey Pulvar dans une interview au journal France Antilles. Bah, elle a été.
J'ai lu un truc cette semaine, c'était ça.
Ah, okay.
Mais Caroline, je vous enlève vos deux points. Parce que, en disant le vieux monsieur que je suis, dans votre réponse, il y avait merde et putain,
voilà.
Et c'était pas utile.
Exactement. Et pour la peine, tu te mets moins deux.
C'est de la spontanéité.
Et oui, c'était dans une interview au journal France Antilles, la journaliste, ancienne compagne d'Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, estime qu'on ne peut pas totalement séparer vie privée et vie publique quand on est président ou ministre. Hein. Qui a dit, on continue. Caro, elle fait la grenouille ce matin. Qui a dit « Je suis proche de mon public, c'est normal. On s'est connus, ils étaient bébés. » Qui a dit cette phrase ?
Dorothée.
Guy Bedos.
Non.
Dorothée.
C'est un humoriste ?
Alors, c'est... Non, c'est pas un humoriste. Non.
Un chanteur.
C'est un animateur.
Non.
Kev Adams.
Non. Alors c'est... Allez, je vous aide.
Johnny.
C'est une chanteuse.
Laurie.
Vanessa Paradis.
Non, pas de cette génération.
Chantal Goya.
Eh ben oui. Je suis interviewé par Bernard Montiel sur MFM Radio. La chanteuse aimée des petits comme des grands est revenue sur ses débuts, son parcours et sa future tournée pour le spectacle La Planète Merveilleuse. Eh ben oui, Chantal Goya.
On va te regarder. Place.
Ouais, je suis passionné.
Je suis content, ça m'étonne pas.
Qui a dit je tuerai père et mère pour bosser avec Laurent Ruquier. Justement, on parlait de.
C'est moi.
Nicolas Nadeau.
Non.
C'est un journaliste.
Alors, non. C'est pas
Cyril Hanouna.
Non.
Un homme ou une femme.
C'est marrant ça.
C'est clair.
Bernard Lecomte, une petite idée. Alors, qui aurait pu dire cette phrase?
Alors déjà, c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé avec Laurent Ruquier, donc ça retire du monde.
Qui n'a jamais. Alors, c'est un humoriste.
Alors, Franck Dubosc.
Non.
Il a travaillé d'ailleurs avec Louis.
Non. Il a une carrière beaucoup plus récente, dirons-nous.
Donc c'est un.
Voilà. C'est un homme.
Gad Elmaleh.
Alors, je vous donne un indice. Il est actuellement sur Gulli. Il vient d'arriver sur Gulli. Il reprend une célèbre émission qui était présentée autrefois par Jacques Martin. Qui s'appelle
Willy Rovelli.
Willy Rovelli, c'est interrogé. Interrogé par Téléstar, Willy Rovelli a fait un énorme appel du pied à Laurent Ruquier. L'humoriste rêve de continuer dans l'animation télé et de travailler avec l'animateur de France 2 et Europe 1. On va voir si ce sera entendu pour l'émission pour tous.
Exactement.
Qui a dit. Bernard Lecomte, qui a dit au départ, j'étais surpris de voir ma mère en politique, mais je trouve ça très chouette. Qui a dit cette phrase?
Claude Chirac.
Danny Boone,
exactement. Eh ben oui.
Bravo.
Eh oui, c'est Danny Boone qui a dit cette phrase. Il était interrogé par La Voix du Nord et Danny Boone a réagi à la candidature de sa maman, Danielle Amidou Ducatel, en deuxième position de la liste UMP pour l'élection municipale à Armentières, dans le Nord. Eh oui, c'est Danny Boone. Bravo Bernard. On en est où au niveau des points, Caroline?
Deux Bernard, un Marion et moi 15 points.
Et qui a dit. La réorganisation de ma tournée n'a pas suffi à endiguer, très facile à endiguer, mon problème d'oreille interne.
Hélène Segarra.
Non, Lara Fabian. Oui. Ah, tu étais presque, parce que effectivement, voilà.
Il y a égalité là.
Ouais. Et oui.
Encore au moins une question.
Dans la nullité, on a égalité.
C'est ça, on est constant dans la nullité.
Ah bah bravo. Vincent et Florine, qu'est-ce qui vous arrive?
Nous, on laisse les autres jouer.
Non, mais en même temps, Bernard Lecomte est très fort. Donc,
deux points pour Bernard Lecomte.
Et toi, tu pues, oui.
Et ce n'est que le début, parce qu'à mon avis, il y aura d'autres points qui vont arriver. Et oui, c'était dans une vidéo postée sur son compte Facebook que la chanteuse annonce à ses fans l'arrêt de sa tournée Le Secret en raison d'un problème interne.
C'est moche.
D'oreille interne.
C'est pas pareil.
En raison d'interne, voilà. Qui a dit
J'ai des munitions pour concurrencer les radios. Qui a dit cette phrase ?
Alors, c'est un animateur télé.
Exactement, Vincent. C'est un animateur
France 2,
télé.
TF1, Canal+.
Mais qui fait que de la télé, du coup.
Il fait que de la télé.
Sur quelle chaîne ? Quelle chaîne ?
Non, France 2.
France 2. Donc, Nagui ?
De la
Non. Ouais, bien plus tôt, bien plus tôt.
Sophie bien Stéphane Bern.
Sophie d'avant.
William
oui, Stéphane Bern.
William
Lémergie.
William Lémergie. Ah. Oui.
Marion.
Eh ben Marion.
On avait presque.
On applaudit. C'est la première de Marion.
Et moi, la chance du débutant.
La mauvaise joueuse.
William Lémergie, le présentateur et producteur de Télématin sur France 2, était l'invité du Buzz TV Orange TV Magazine. À cette occasion, il se dit confiant pour son programme face au matinal radio. Parce qu'il est diffusé effectivement le matin et que ça marche très bien. Qui a dit Jean Dujardin est vraiment drôle. Tout le monde s'en rend compte.
Georges Clooney.
Exactement. Oh. Eh ben bravo.
Ah bah ça c'est cinéma. Ça.
Exactement. Georges Clooney.
Cinéma Vincent. Il
preuve que les phrases dites et sont reprises de multiples fois dans les médias. C'était lors d'une conférence de presse, Vincent.
Hein, absolument.
Tout que l'acteur américain a présenté son film Monuments Men et voilà. En a profité pour faire l'éloge de Jean Dujardin puisque Jean Dujardin joue
oui,
dans.
Et oui, c'est
ce
son
film.
Grand pote en plus. Ouais, tout
exactement.
Tout à fait.
Alors Bernard Lecomte. Le prochain c'est pour vous. Qui a dit Cyril Hanouna, le meilleur vendeur d'épinards frais ? Et d'ailleurs, dans l'interview de Bernard Lecomte, on a écouté une audio.
À Philippe Bouvard.
Philippe Bouvard.
Exactement.
Tout pareil.
Eh ben, alors, on en est où au niveau des points ?
Marion 3, Bernard Vincent, K.O.
Eh ben bravo. Philippe interviewé. Interviewé par le magazine Télé Loisirs, le célèbre animateur des grosses têtes sur RTL a une nouvelle fois taclé l'animateur de Touche pas à mon poste sur D8. Ah. Qui a dit on me voit à la télévision, mais on ne m'entend pas. Qui a dit cette
Mimi
phrase
Mati.
Pas d'attaque au physique, on a dit.
Oh, Caroline. Caroline. Qui a dit cette phrase ?
C'est un journaliste, hein ?
Non, c'est pas du tout.
C'est celle qui fait du.
Ni présentateur, ni journaliste. Non, pas du tout.
C'est celle qui fait les gestes.
Qui chante. C'est une chanteuse.
Une chanteuse.
Une chanteuse.
On me voit à la télé.
Alors, c'est une chanteuse de télécrochet.
Bernard Lecomte a le nom.
Jennifer.
C'est une bourguignonne.
Ouais. Je sais pas en fait si elle est bourguignonne.
Ça nous aide pas du tout.
Elle vient de Cône-sur-Loire.
Ouais.
Ah mais oui.
Elle s'appelle Élodie Frézé.
Exactement. Ah, bravo. Et alors là.
Bravo. Alors là, Bernard Lecomte, bravo.
Et oui. On applaudit à toutes les réponses maintenant.
Voilà. C'est ça.
Sauf pour toi.
C'est ça.
C'était sur son compte Twitter qu'Élodie Frézé a décidé de pousser un coup de gueule dans 17 tweets hein, quand même. Hein. La chanteuse regrette qu'on ne lui laisse pas chanter ses propres titres dans les émissions alors qu'elle a du mal à vendre son dernier album Amuse Bouche. Et oui, qui est le gagnant du qui a dit?
Bernard Marion égalité.
Eh ben on dit que c'est les deux gagnants du qui a dit. Eh ben exactement. Et d'ailleurs maintenant, eh oui, c'est à toi Marion. On va passer de suite à la chronique web. Et avec toi, Marion, on commence avec les mots de passe les plus utilisés en 2013.
Alors oui, donc est-ce que tu sais, Nicolas, quel est le mot de passe le plus utilisé en 2013 ?
Eh ben non, tu vas nous le dire.
Eh bien, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout simplement. Et c'est le site spécialisé Splash Data qui a publié ce classement. Alors ensuite, le mot de passe le plus utilisé, c'est Password, donc mot de passe en anglais. Puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un peu plus compliqué celui-là, et QWERTY. Alors c'est comme si on tapait AZERTY hein, sur un clavier français,
bah oui.
C'est-à-dire les 6 premières lettres du clavier dans l'ordre. Et dans les plus populaires, il y a aussi I Love You ou ABC123. Et c'est assez énorme parce que 1,9 million d'internautes ont utilisé en 2013 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe.
D'accord.
Quand même. Et 440 000 ont choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ah, il y a quand même qui s'est dit on va appuyer sur l'autre touche.
Voilà. Mais attention.
C'est la sécurité.
Exactement.
Mais attention, car ces mots de passe très peu originales sont également les mots de passe les plus piratés.
Ah, bah oui, c'est sûr. On continue, Marion, avec Amazon qui fait de la concurrence à Netflix.
Alors voilà, donc Amazon, en effet, c'est le commerçant du web qui a pour projet de lancer un service de télévision en streaming. Donc en streaming, ça veut dire en direct sur Internet. Pour le moment, rien n'est sûr. Ils essayent pour le moment d'acquérir des droits de diffusion. diffusion de leur contenu. Parce que oui, Amazon crée des émissions originales dans ses propres studios.
D'accord.
Alors déjà, sur Amazon, on peut acheter ou louer des épisodes de séries ou des films. Et il y a aussi un service de vidéo à la demande. Et là encore, comme sur Netflix, Amazon lancerait ce service de télévision en ligne. Mais sans oublier de rivaliser, parce qu'il proposerait un abonnement de 6,59$ par mois au lieu de 7,99$ pour Netflix. Mais attention, le géant du e-commerce ne cherche pas à obtenir une licence de chaîne de télévision. Alors, toutes ces infos ont été révélées par le journal Wall Street, mais Amazon dément. Et oui, parce qu'apparemment, ce service diffuserait juste leurs émissions. Alors, est-ce que c'est encore un coup de pub? On ne sait pas, mais en tout cas, ce projet paraît plus réaliste que les livraisons par drone.
On termine, Mario, avec un cloud, c'est comme ça qu'on dit, hein, pour les robots. Je ne sais pas comment on prononce.
Un cloud, un cloud.
Exactement, cloud, voilà.
Alors voilà, c'est un projet européen, Robo Earth. Et oui, il n'y a pas que les Japonais qui font des robots. Il vise à rassembler les savoir-faire et les algorithmes des robots dans un cloud qui, en fait, qui pourra permettre aux robots d'améliorer leurs connaissances et leurs capacités. Donc les robots vont se connecter au cloud pour apprendre des choses, tout simplement. Par exemple, à fermer un tiroir ou pour descendre des escaliers. Et donc c'est très pratique parce qu'un robot, en fait, ne peut pas fonctionner dans des environnements humains parce que pour chaque situation, il faut que tous les gestes soient programmés. Mais grâce à ce cloud, les robots pourront apprendre certains gestes par eux-mêmes. Enfin, grâce aux D'accord. autres robots qui auront déjà appris ces
incroyable.
Gestes-là. Donc voilà, les robots ont tout compris, on apprend des autres. Alors, le cerveau robotique est en ligne et il est disponible gratuitement pour tous ceux qui souhaitent développer ce projet. Et grâce à ce système, les chercheurs espèrent réduire les coûts de fabrication des robots et faire rentrer peut-être dans notre quotidien tous ces robots.
Eh bien, c'est formidable, Marion. Il est 8h49 sur Radio VL. Merci de nous écouter. On va faire une petite pause musicale. On va s'écouter Pharrell Williams, Happy. À tout de suite.
Écoutez et réécoutez vos émissions favorites sur radiovl.fr, rubrique replay. Friends to you, don't waste your time. Here's why.